bit of the bubbly.
That's undisputed.
I'm better than you, and you know it.
And we are NXT.
War Games. Salut les smarts et salut les marks, vous écoutez Catch Up, le podcast qui transpire le catch et la bonne humeur, même en confinement. Pour vous, toutes les semaines, on regarde, on résume, on analyse les shows de la WWE, mais pas que, puisqu'aujourd'hui, on va parler AEW versus NXT, c'est la baston du mercredi. Vous nous entendez, vous l'entendez rugir, et moi au micro, je suis la meilleure larmbar pour arbitrer cette bastonnade, cette bataille des titans, et bien sûr pour m'accompagner qui rugit sous son masque, le Luchasaurus des podcasts, ton Chris. What's up?
Salut Amiral, salut peuple catch-up, préparez la trousse à pharmacie.
C'est la baston du mercredi, effectivement, colonel. Ouais, c'est pas ma baston, colonel.
Non. C'est pas ma guerre.
C'est pas ma guerre, non.
Mais un catch-up un peu quand même.
Ouais, c'est vrai. Hein, le mercredi, c'est toujours la guerre entre la WWE et la Elite Wrestling, NXT et Dynamite s'affrontent sur les ondes entre le USA Network et la TNT. Et donc, un petit tour d'horizon, comme chaque semaine, on débouche a little bit of bubbly pour regarder les Audimat. Et cette semaine, effectivement, le champion a débouché la bouteille puisqu'on retourne vers un peu le rythme classique. Hein. On a une augmentation de l'Audimat de un peu plus de 5% pour Dynamite et 4% pour NXT. Donc Dynamite reste en tête avec 732 000 spectateurs, avec 663 000 du côté de NXT. Donc une petite embellie pour les deux émissions hein, qui récupèrent l'audimat. Et Dynamite reste toujours de quasiment à 80 000 spectateurs en plus, avec bien sûr toujours une bonne longueur d'avance sur la démographie clé entre les 18-49 ans, qui sont la cible préférée des annonceurs. Donc voilà.
Un tout petit chouï de plus et je dégage. Et je fais plus partie du quota.
Ah, dans 2-3 ans, t'intéresses plus les annonceurs, t'intéresses plus Coca-Cola, ni KFC, ni Burger King, etc.
Même pas dans 2-3 ans, donc. Tu vois.
Ah ouais.
Wow. Ah ouais, ça fait peur.
On fera des reportages, on fera des émissions. Alors, ça se passe comment pour la démographie senior? Qu'est-ce qu'on préférait? Est-ce que les tendances se maintiennent? Est-ce que Dynamite plaît aussi aux plus de 50 ans? Ou est-ce que c'est NXT qui préférait? On verra, on aura notre insider, Tonton Chris, qui nous racontera ça chaque semaine. Ça, c'est cool.
Voilà.
Ouais. Donc, la semaine dernière, on a été tous les deux d'accord pour dire que c'était Dynamite qui avait le meilleur show.
Et oui.
Donc, à baston mercredi, honneur au vainqueur. On va commencer à vous parler du coup du Dynamite de cette semaine, du mercredi 6 mai 2020. On est encore, bien sûr, en confinement. Les shows de cash se font toujours sans public. Mais du côté Dynamite, on a encore poussé les limites un peu plus loin cette semaine. Ils sont de retour en Floride, donc au Daily Place à Jacksonville, donc qui est en fait une petite salle de spectacle semi-ouverte, semi-couverte, qui se trouve juste à côté du gros stade de football américain des Jaguars de Jacksonville, dont est propriétaire la famille Khan, qui est aux commandes de la All Elite. Donc, ils sont semi-ouverts. Donc, on a droit.
Ils avaient fait le Fighter Fest, il me semble, dans cette salle-là.
Exactement. Où c'était. Non, c'était Fight for the Fallen.
Fight for the Fallen.
Du coup, ça veut dire retour de la pyro, retour des feux d'artifice. Ça fait plaisir. Des intros un peu plus. Poum, pam, pim, poum, grand spectacle. Et beaucoup plus de monde autour du ring. Hein. Là, cette semaine, on avait 25-30 personnes qui étaient autour du ring.
Quelques gens disséminés ça et là dans quelques gradins. Hein.
Exactement, a priori, il y a quelques fans des Happy Few, des VIP qui ont eu droit à avoir un show presque privé de Dynamite cette semaine qui était en live aussi, d'après ce que j'ai comme information. Donc, un pas en avant vers le retour à des conditions moins confiné et presque plus normal. Alors qu'il y a des rumeurs, il y a beaucoup de rumeurs en ce moment sur Internet qui sont démenties mais qui sont remises, comme quoi bientôt les shows de catch WWE et All Elite Wrestling vont pouvoir accueillir, sous certaines conditions bien sûr, du public, notamment en Floride, où en Floride, clairement, le gouverneur a l'air d'être complètement un one again sur les notions de distanciation sociale et de confinement. C'est ultra laxiste, et donc du coup, les fédérations décident d'élire leur show là-bas. On ne sait pas comment ça va se passer, et peut-être qu'on aura du public pour Money in the Bank, qu'on aura du public pour... Money in the Bank, je ne parle pas Money in the Bank, c'est ce dimanche, donc je dis n'importe quoi, mais pour peut-être Double or Nothing, qui est dans 15 jours, à la fin du mois de mai, peut-être qu'il y aura un peu de public, on ne sait pas. Dans tous les cas, voilà, une configuration un peu plus étendue, un peu plus élargie du côté Dynamite. On retrouve aux commentaires le trio habituel, Tony Schiavone, Excalibur et Jim Ross.
Ça faisait un moment.
Ouais, ça faisait depuis le début du confinement qu'on les avait plus, les trois commentaires. Donc, le champion Chris Jericho n'est pas là. De toute façon, ce soir, il catch. Hein, il a un match plus tard, le main event. Et on commence le show avec une petite vidéo récap du match entre Cody et Darby Allin la semaine dernière pour déterminer qui de deux ira en finale pour le champion TNT. Pareil, un récap du match qui avait clos le show la semaine dernière entre Lance Archer et Dustin Rhodes. Et on attaque ce soir directement avec Cody Rhodes qui a un match contre Joey Janela. Un long match de 13 minutes 30. Hein. On va retrouver d'ailleurs cette semaine un peu la même structure de show que la semaine dernière. Un gros match en intro, un gros match au milieu et un gros match en main event avec quelques petits matchs plus courts et segments vidéo qui vous ponctuent tout ça. Donc un match là sans véritablement enjeu entre Cody et Joey Janela, hein, mais un match bien disputé, donc 13 minutes 30 entre les deux. Qui va bien sûr, hein, on s'en doutait bien, finir par la victoire de Cody qui, après une bataille assez disputée entre Janela et Cody, eh bien Cody arrivera à mettre son crossroads pour la victoire 1-2-3, voilà, qui solidifie sa position en tant que finaliste pour le TNT Champion. Donc du coup, toi, comment tu as apprécié ce petit opener de 13 minutes entre les deux?
Ouais, c'était assez long. C'était un match fair play. Les mecs se sont serrés la main au début, se sont serrés la main à la fin. C'était bonne ambiance. Joe et Janela me fait pas spécialement rêver entre les cordes, mais c'était histoire de renforcer un peu l'aura de Cody en vue de la finale du TNT Championship. Donc ça passait plutôt pas mal.
Sachant que Janela, on ne l'avait pas vu depuis le confinement aussi.
C'est vrai que Janela, ça faisait un sacré paquet de temps qu'on ne l'avait pas vu pour le coup. Donc, il le relance un peu. C'était pas trop mal. Et effectivement, le fait, là, tout d'un coup, tu as trois mecs aux commentaires, tu as du monde ringside, tu as un petit peu de monde dans les gradins, ça crie, ça siffle. Il y avait d'entrée, ça a mis une certaine ambiance dans le show.
N'est-ce pas, on retrouve un peu des parfums de show live, comme tu dis, avec des gens qui applaudissent, des gens qui huent. On avait quand même des mesures de sécurité. Tous les caméramans et tous le staff autour du ring, les médecins, avaient tous un masque. Il y avait même des personnes qui étaient dans le public, des catcheurs, qui avaient des masques, hein, notamment Billy Gunn, qui avait un masque marqué Gun Club dessus. Il y avait Orange Cassidy, qui avait un masque en jean, comme sa veste, son pantalon. Bref, voilà, et la audite a été assez publique sur les réseaux sociaux. Ils ont montré des photos, des vidéos de toutes les mesures qu'ils prenaient pour s'assurer que leur tournage d'émission se fasse dans les bonnes conditions. A priori, ils ont testé tout le monde, hein, tout le monde a été testé le jour même contre le Covid-19. Donc, comme la WWE s'est pris un peu une volée de bois sur les internets au sujet de leur gestion de la crise sanitaire, et bien du coup, la audite se semble prendre la voie de la précaution et d'être assez public avec ça. Donc c'était effectivement assez cool de voir ce match, un gros opener. Hein. On a quelques spots plutôt sensas, notamment on est Cody qui monte sur une barrière un peu surélevée et fait son moonsault sur Janela à l'extérieur. Bref, on a eu quelques petits moments de cash sympas. Pareil, Janela, je suis pas ultra fan de ce mec. Il y a un côté fun, mais pour moi, c'est pas un compétiteur ultra sérieux dans la chaîne alimentaire de Dynamite, mais c'est un bon moyen, je pense. Les matchs matchs un peu longs comme ça entre un mec qui est over et qui est favori versus un mec qui est un peu plus dans l'ombre et de voir que ben il reste bien 12-13 minutes dans les cordes, ça renforce un petit peu aussi ben le challenger, hein, l'outsider du match. Donc pourquoi pas, ça permet de builder un petit peu les trucs. Par contre, Janela, son ring gear, son pantalon léopard avec des espèces de franges, mais qui sont toutes concentrées, pas sur les côtés, pas à la Young Bucks, mais elles sont toutes dans son entrejambe, les franges. Ça fait une espèce de pagne ou de buisson, comme quoi il ne s'est pas rasé et filé pendant tout le confinement, voire l'année d'avant, je ne sais pas. C'était un peu too much, mais bon, c'est un peu son personnage aussi de faire des gueules pas croyables. Janela, c'est le mec... On a l'impression qu'il sniffe de la colle et de la javel avant de venir sur le ring. Bref, why not? Une autre personne qu'on n'avait pas vue depuis le début du confinement et qui revient, hein, donc du coup aussi, voilà, c'est ces mesures un peu levées et ce stade semi-ouvert, semi-extérieur permet à des compétiteurs et compétitrices, pour le coup, qu'on n'avait plus depuis plusieurs semaines, de revenir. C'est le cas de la championne Nyla Rose. Donc il y a une vidéo récap de sa victoire contre Rio, etc., de son record, avec aussi, du coup, l'emphase qui est mise sur Hikaru Shida, qui est la number one contender dans le classement de l'élite, mais aussi Penelope fort des Britt Baker qui ont bénéficié durant le confinement d'exposition. Donc Tony Schiavone est au micro sur la rampe pour accueillir le retour de la championne, qui prend très mal le fait qu'on ait montré dans la vidéo d'autres personnes qu'elle, parce que c'est elle qui est la dominante, c'est elle qui est la championne et c'est elle qui restera championne pour toujours. Donc très vénère, elle va retrouver dans le ring Kenzie Page, une jeune catcheuse de 18 ans qui fera 2 minutes 20 contre Nyla Rose avant bien sûr de se faire complètement exploser par la championne ultra dominante. Donc elle fera plusieurs power bombs, elle fera 3 power bombs pour finir sur sa beast bomb. Donc on verra qu'il y a Chris Statlander et Hikaru Shida qui ont regardé ça d'un air très très grave et très très préoccupé pour la santé de ces jeunes catcheuses. Donc voilà le retour de la division féminine avec la championne. On nous annonce d'ailleurs pour la semaine prochaine qu'on aurait un Fatal 4-Way entre Penelope Ford, entre Britt Baker, Hikaru Shida et Chris Statlander, justement pour peut-être déterminer, confirmer peut-être la position de First Contender d'Hikaru Shida, ou peut-être créer la surprise. Qui sait, est-ce que toi qui es assez comme moi d'ailleurs, mais qui répète chaque semaine une critique de l'absence de catch féminin à la Lutte Wrestling, est-ce que tu es un peu satisfait de dire ok c'est bon, la championne est de retour, la semaine prochaine on a un gros match à 4, est-ce que ça suffit à calmer ton ire à ce sujet?
Bon, ça suffit pas forcément, mais en tout cas au moins voilà, après 3 semaines consécutives en weekly sans aucun match féminin, enfin ils relancent un peu la division féminine. En faisant revenir la championne, voilà, donc c'est enfin, j'ai envie de dire, voilà, quoi. Donc enfin il y a un peu de compète chez les femmes à la E-Dub et c'est pas plus mal, quoi. Donc ouais, puis là voilà, le truc Native Beast là, qu'on fasse un peu revenir les origines amérindiennes de Nyla Rose, je voulais voir ses mensurations et je me rends compte qu'elle avait 1m75 pour 77 kilos. Mmh. C'est vrai qu'elle est râblée, quoi, mais elle fait tellement monstrueuse à côté. Alors bon, la petite jeune qui l'a affrontée là, rest in peace, hein, voilà. Et écoute, c'est pas mal. Il relance la division féminine. Voilà, c'est le constat que je fais. On verra un peu maintenant sur la durée, parce que là, je pense que de toute façon, pour que vraiment on puisse porter un œil définitif là-dessus, va falloir voir. Voilà, d'ici un an, enfin non, pas d'ici un an, mais d'ici octobre, ils fêteront leur un an de weekly. On verra un peu où ça sera à ce moment-là, quoi. Mais voilà, ils font venir la championne, championne qui m'apparaît beaucoup plus dangereuse et voilà, et bien bien monstrueuse que ne pouvait l'être Rio. Shida, j'aime bien, donc écoute, moi je suis pour cette rivalité Shida Rose dans cette division féminine. Donc allons-y.
Ouais, tout à fait. Après, c'est vrai qu'il souffre d'un roster féminin très, très fin, très pauvre.
Ouais, ouais, ouais.
Il y a effectivement les 5 personnes qu'on a citées qui sont plus ou moins bien installées, qui sont là régulièrement. Après, ils ont quelques personnes qui viennent de temps en temps, mais c'est...
Globalement, tu as Nyla Rose, Rio, Shida. Même déjà, une fois que tu as cité ces 3-là, ça commence à devenir difficile. Dans les jobos, tu as Shana, tu as Britt Baker.
Le Baker, c'est pas une jobeuse.
Non, non, c'est pas une jobeuse. Non.
Penelope Ford aussi.
Penelope Ford. Voilà, mais ça fait pas beaucoup. Hein. Allez, on va dire grosso merdo avec quelques jobeuses. Grosso merdo, ça nous fait tourner à une 10-12 de filles. Ouais, c'est carrément pas suffisant.
mais avec un cœur effectivement de 5-6 catcheuses un peu sérieuses, hein, c'est pas assez. C'est quand
même c'est pas assez.
Donc là, écoute, c'est pas mal. Il nous reste, après cette émission-là, il y aura encore deux émissions de show avant Double or Nothing. Il y aura forcément un match pour le titre féminin à Double or Nothing. Donc du coup, il y a le match la semaine prochaine, plus encore une semaine pour builder le match de titre pour le pay-per-view. C'est pas trop mal. Effectivement, il faudra qu'après, en tout cas, une fois qu'on retombera dans des conditions un peu plus normales de circulation sur le territoire américain, qui s'attelle à écrire des histoires intéressantes féminins et qui display un petit peu les talents qu'ils ont, comme les Shana, qui venaient d'arriver pas longtemps avant la pandémie. Donc c'est vrai que peut-être que l'herbe était coupée sur le pied, qu'ils avaient des projets qu'ils n'ont pas pu mener à bien. On verra bien. C'est le retour aussi de MJF. MJF qui est là, mais on voit aussi une vidéo qui a été tournée dans une chambre d'hôtel assez classieuse, hein, et pas du tout sous fond vert, hein, contrairement à ce que des gens peuvent dire mal intentionné. MJF est vraiment dans cet hôtel super luxueux. Donc il dira, il fera plus ou moins son apologie, sa promo, hein, pour dire voilà qu'il y a plein de catcheurs qui sont là, alors qu'ils sont pathétiques parce qu'ils ont déjà 30 ans et ils disent qu'ils sont la prochaine grosse star, the next big thing, alors que lui, il est déjà la big thing actuelle, la grosse star actuelle. Il n'a même pas 30 ans, il n'en a que 24. Et que dans son petit doigt, il a plus de hit factor, plus de talent que tout ce monde-là. Donc, il en a marre d'être comparé au Ric Flair, au Rock, etc. Et on dit qu'il n'est pas à leur hauteur, mais il est déjà dans la conversation en comparaison avec eux, ce qui est déjà plus que la plupart des gens. Donc, voilà, il est guéri. Et la semaine prochaine, il aura un match. Et on le retrouve, ni une ni deux, aux abords du ring, hein, avec Sean Spears et Tony Schiavone. Donc un petit segment un peu fun où Sean Spears et MJF continuent un peu leur petit numéro de « on parie du pognon sur les matchs ». À côté, au bord du ring. Voilà, donc la semaine prochaine, eh bien, MJF affrontera Jungle Boy. Double or Nothing, pardon. Il affrontera Jungle Boy, c'est ce que lui annonce Tony Schiavone. MJF est bien sûr furieux de cette annonce, il n'était pas au courant. Ça vient directement de Tony Khan, donc il est très en colère de tout ça. Sean Spears, lui, quant à lui, il a aussi droit à un petit segment vidéo où il parle de la défaite cuisante de Dustin Rhodes la semaine dernière aux mains du Murder Rock Monster Lance Archer, et il dit que c'est certainement la fin de la carrière de Dustin Rhodes, et il y a une personne qui aurait pu empêcher ça, qui aurait pu sauver son frère, c'est Cody, mais Cody n'a rien fait, et lui, Sean Spears, c'est aussi un frère, c'est un grand frère, et il comprend pas quoi. À sa place, à Cody Rhodes, il aurait sauvé son frangin, donc Cody, c'est vraiment un sans-cœur. Donc voilà, si Dustin Rhodes, sa carrière est terminée, c'est la faute de son frère, et puis c'est tout. Donc voilà, deux petites vidéos, un petit segment à côté du ring pour un peu hyper ces deux top heel ou mid-card heel, comme on peut dire, MJF, Sean Spears. Toi, tu les vois où dans la carte actuellement de l'élite?
Ouais, MJF, il est bon au micro. Hein. Et après, moi, je trouve que c'est marrant d'ailleurs, il est tellement bon au micro qu'il arrive à essayer de nous faire croire qu'il est aussi balèze qu'un Rock, etc. Alors que physiquement, finalement, MJF, il est assez quelconque, quoi. C'est juste, il a une gueule et vraiment au micro, il envoie. Donc du coup,
il a une tête à claque,
c'est clair. Ah, voilà. Et du coup. Du coup, ça marche plutôt pas mal, quoi. Et moi, ça m'a bien fait marrer. Enfin, le passage encore avec les paris, avec Sean Spears et tout ça, j'ai bien aimé ça. C'est voilà. Écoute, hein, lui, il continue. De toute façon, juste finalement par la force du micro, justement, il se balance dans le main event tout doucement. Il s'attaque à Cody, il s'attaque au titre, il s'attaque un peu à tout, quoi. Et effectivement, il rappelle qu'il a que 24 ans, quoi. 24 ans, putain. Quoi.
Ouais.
Et voilà donc écoute, on va voir la suite. Donc il va affronter Jungle Boy. Alors j'espère que ça va nous assurer de revoir le Jungle Express, peut-être de nous revoir un peu le Luchasaurus, bon sang.
Ouais, le Jurassic Express, Jurassic Express la semaine prochaine, ils sont bookés pour faire un combat contre Best Friends.
Ah oui, contre Best Friends, oui, ouais. D'accord. Ouais. Bon, bah ça c'est bien.
Et ça sera Jungle Boy et Luchasaurus contre Trent et Chuck E.T.
C'est une bonne nouvelle. Je suis ravi de savoir que le Luchasaurus est dans le retour.
Bah oui, il a peut-être retrouvé sa queue, hein, parce que pour ceux qui suivent Building the Elite, hein, BTE, eh bien, Luchasaurus y est chaque semaine et en fait, il recherche sa queue de dinosaure hein, qu'il a perdue. Et c'est Taya Valkyrie qui lui a tranché. Donc on voit de temps en temps Taya Valkyrie et là, il renoue avec un de ses tag team partners sur le circuit indie, Panda.
Il y a Taya Valkyrie à Building the Elite.
Ouais, tout à fait.
On bosse pas à Impact Wrestling, elle.
Bah si, mais bon.
D'accord, ok.
BT, tu peux avoir tout le monde, hein. On en a encore effectivement pour l'émission.
Taya Valkyrie, c'est la femme de John Morrison, je crois.
Exactement.
C'est vrai, hein, c'est ça. Hein.
Ouais, c'est elle. Oh, ouais, non, mais ils ont du monde, plein de fédérations dans BT, notamment pour le 200e épisode. Ils avaient des gens, ils avaient de Flip Gordon, ils ont eu aussi Marty Skrull, enfin voilà quoi. Ils vont chercher des gens en dehors de leur fédération, ils s'en foutent, ils n'ont pas de frontières.
Elle était à la Lucha Underground, Taya aussi.
Tout à fait.
Où il y avait des filles pas mal, hein, que j'ai jamais trop revues sur le circuit, mais comme je pense à Ivelisse, par exemple.
Ouais, Ivelisse, elle avait fait des try-outs à la WWE, et c'était très mal passé. La WWE.
Ah ouais, elle
avait un problème personnel avec un des coachs, avec Bill DeMott, hein, qui est un coach qui a eu des problèmes avec beaucoup, beaucoup de gens, et visiblement, elle a été un peu harcelée, brutalisée par les manières de coacher très old school de Bill DeMott, et du coup, elle a fait partie de ce...
Ouais, mais Bill DeMott, il s'est fait virer après par la suite, parce que lui, il a eu plein d'emmerdements, justement, à cause de ses attitudes et comportements dans les vestiaires, à peu près envers tout le monde, quoi. Ça avait l'air d'être un garçon charmant, ce Bill DeMott.
Ouais, très sale réputation.
Ouais, exactement.
Donc,
voilà.
Donc on est content, MJF est non seulement guéri, mais overhead, il est sur-guéri, hein, il est encore plus en forme que quand il n'était pas blessé. C'est fabuleux, ce mec, il a un patrimoine génétique de malade. Et donc, bah, peut-être qu'on aura un match aussi entre Sean Spears et Dustin Rhodes. Hein. Peut-être que Dustin n'a pas dit son dernier mot, n'aura pas apprécié ce qu'a dit Sean Spears à l'écran. C'est vers ça que ça se dirige, hein, je pense. Hein. Après avoir une maille à partir avec Cody, eh bien, Sean Spears va chercher des noises à Dustin. Le champion est là. John Moxley, donc, qui est en action depuis un petit moment. On l'avait revu la semaine dernière en promo, mais là, il nous avait dit hein, d'appeler nos grands-mères, surtout, bordel de merde. Et bien là, il est là pour faire un gros match de 16 minutes 30 contre Frankie Kazarian, donc de ACU. Donc, gros match. Frankie Kazarian, c'est son premier match, single match, donc sous la bannière All Elite Wrestling. Et au commentaire, on me dit que c'est son premier match simple depuis janvier 2019. Imaginez-vous, ça fait à peu près un an et demi qu'il n'a pas eu de match simple pour Frankie Kazarian. Pour ceux qui l'avaient suivi à l'époque de Impact Wrestling à TNA, hein, c'était un compétiteur très sérieux qui était en équipe avec Christopher Daniels, hein, d'ailleurs à l'époque déjà, mais qui était aussi un compétiteur single assez redoutable. Et donc là, voilà, un gros match de plus d'un quart d'heure entre le champion et Kazarian. Donc voilà, il y a plein de... Plein de moments où ça va aussi à l'extérieur, etc. Des comptes de deux en veux-tu, en voilà. Mais bien sûr, malgré la pugnacité qu'a démontré Frankie Kazarian, eh bien, le champion reste en haut de la fédération et avec son paradigme shift un peu out of nowhere, bien avec une séquence assez fluide, hein, où Frankie Kazarian avait la main et l'ascendant sur Moxie. Moxie a besoin juste d'une petite ouverture pour placer son finisher. Donc, John Moxie gagne ce match et il n'aura pas le temps de célébrer puisqu'il y a 7 membres du Dark Order, hein, ceux qui ont le masque, donc qui déboulent sur le ring et qui commencent à passer à tabac le champion. SCU, donc Scorpio Sky et Christopher Daniels débarquent pour prêter main forte à John Moxley, mais bien sûr le nombre est trop important. Il y a notamment le numéro 10, hein, qui est lui torse nu, qui est assez baraqué, qui est celui qui a été recruté par une petite vidéo il y a quelques temps, qui fait un gros spinebuster sur Scorpio Sky. Et puis Brody Lee débarque, hein, Monsieur Brody, avec son costard bleu et gris, sa cravate,
son pantalon trop court,
ouais, son pantalon un peu trop court. Bah, faut dire qu'il est très grand, hein, Brody Lee. Et donc voilà, Brody, il met une discus lariat sur John Moxley, il prend le micro. Il a bien entendu l'appel de John Moxley la semaine dernière, qu'il a mis sur lui-même et sur son titre. Moxley, il n'est pas prêt de ressentir l'énergie des fans. La seule énergie qu'il va sentir dans les prochains temps, John Moxley, c'est celle de Dark Order, c'est celle-ci, celle du Dark Order qui lui marche sur la gueule. Ils disent qu'il n'est plus la personne qu'il connaissait, John Moxley. Il a changé, maintenant c'est un leader. Il a changé tout à fait, et que maintenant Moxley, il a un truc qu'il veut, il a un truc dont il a besoin, c'est bien sûr le titre. Donc il répond au challenge de Moxley, et il a plutôt intérêt à accepter le champion, sinon le Dark Order se chargera de le forcer à accepter. Moxley prendra le micro, enfin du moins il rampera jusqu'au micro qui est par terre, et il dira à Brody, dude, le seul truc que tu avais à faire, c'était de demander. Et donc là, bien sûr, des boots dans la gueule de Moxley pour lui faire fermer son clapet, et Brody finira en ayant la ceinture en main, et d'après ce qu'on nous dit, eh bien, il partira avec la ceinture en main, il ne la laissera pas. Donc peut-être que Brody s'est emparé de la ceinture avant de la gagner dans un match, et on nous annoncera un peu plus tard dans l'émission que le main event de Double or Nothing, eh bien, c'est un match pour le titre entre Moxley et Brody. Alors du coup, est-ce que Mr. Brody Lee, avec son gimmick de Vince McMahon, sera bientôt champion de la AEW?
Incroyable, hein, incroyable. C'était, en tout cas, tout ce segment-là, déjà, un match vachement solide, quoi, entre Moxley et Kazarian, pour commencer.
Pas grave.
Ouais, tu as dit 16 minutes, c'est quoi. Cool, hein. Un vrai gros match de catch, là, vraiment, vraiment. Et même si Moxley, des fois, moi, je l'ai techniquement, même quand il y a du temps où il était Ambrose, je le trouvais des fois un peu just. Mais moi, je trouve qu'il est à fond dans son truc, Moxley, depuis qu'il est champion. Et que du coup, il est intéressant. Et du coup, là, face à un. Alors, on avait deux gros workers, en fait. Hein, un Kazarian, un putain de vétéran, hein, un vieux routier du circuit. Donc là, on a eu un match vraiment. C'était pas de la rigolade. Là, tu vois, là, ça n'a pas été un truc de 7-8 minutes plié vite fait. Non. Là, on a eu droit à une vraie démonstration de catch. Franchement, j'étais agréablement surpris par ce combat. Et puis après j'ai été ravi de la suite, voilà quoi. J'ai trouvé excellent ce tabassage, quand même, les amis, allez voir ce beatdown que prend Moxley, quoi. Il vient de se coltiner 16 minutes de catch face à Kazarian, et derrière il s'enquille un beatdown des familles. Ils sont 7 ou 8 hein, les mignons, hein.
Ouais.
Et ça tabasse, et comme tu l'as dit, il y a un gros spinebuster qui est posé. Il y a 2-3 moves comme ça de salopards. Là, Daniels et Scorpio Sky, ils prennent cher. Daniels, il prend cher. Hein. Il reste là, il reste en Jesus sur la rampe pendant tout le reste du segment. Et puis, écoute, du coup, on a Luke Harper versus Dean Ambrose. Versus Brody Lee. Qui se profile pour le titre de champion du monde All Elite Wrestling. Ma foi, vu ce que fait Brody Lee avec l'histoire du Dark Order, moi, depuis le début, ça me plaît bien. Je trouve que tout le truc est bien trouvé, bien senti. Ce personnage de Vince McMahon en version barbute de 2m05. Moi, ça m'a plutôt bien. Je trouve ça assez drôle. Effectivement, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans les millions, il y a l'air d'en avoir 2-3 qui ont l'air d'être des bons gabarits, quoi.
Ouais, notamment le numéro 10, hein, que t'es torse nu.
Normalement, le fameux numéro 10, ouais, tu l'as cité au départ, ouais. Et donc, quand ceux-là vont un peu se découvrir au fur et à mesure, c'est très intéressant, ce clan, parce que on n'est pas dans un trio habituel, parce que les clans, c'est souvent un trio, ou un tueur. Là, on est vraiment dans un truc, on ne sait pas, ils sont 10, ils sont 12, ils sont 15. En plus, en ce moment, on ne voit pas trop Evil Uno et Stu Grayson. Donc, c'est vraiment que tous les autres minions qui sont là. Et du coup c'est intéressant, moi j'ai bien aimé tout ce segment, m'a bien plu.
Ouais, et c'est vrai qu'il y a pas mal de gens sur internet, notamment sur notre Discord, hein. Si vous n'êtes pas dessus, rejoignez-nous sur Discord, il y a plein de channels, plein de fans de catch qui discutent, qui reprochent du coup à la All Elite de faire un peu les fonds de tiroir de la WWE, d'avoir des lutteurs. Le prochain match de titre, ça va être, du coup, on vient de dire, hein, Dean Ambrose contre Luke Harper, mais je trouve que ça va être super intéressant de voir ce que les deux vont faire à All Elite. dans ce main event pour le titre. Et vu qu'il y a déjà eu des matchs par le passé d'Dean Ambrose et Luke Harper à la WWE, et de voir une on va pouvoir comparer, juger sur pièce, comme on dit, quoi. C'est OK, qu'est-ce qu'ils faisaient, qu'est-ce qu'on leur faisait faire à la WWE, qu'est-ce que maintenant, aujourd'hui, avec un peu plus de liberté, a priori, à l'Elite, est-ce que vraiment on voit une différence? Est-ce qu'on voit une amélioration, on voit un truc qui est proposé, qui est plus intéressant, qui est plus cool? Ou est-ce qu'au final, non, on est pareil? Là, ça va être un bon indicateur, en fait, je trouve, un bon point de
comparaison. Après, quand je dis Ambrose Harper, je chambre. C'est pour la déconne. C'est pour la déconne, les amis, peuple de catch-up. Mais sur le débat des gars de la WWE qui vont à la All Elite Wrestling, moi, alors, je vais donner mon avis personnel là-dessus.
Ouais, vas-y.
Pour moi, c'est totalement normal. Je veux dire, des mecs de la WWE, ça fait des décennies. Qu'ils vont bosser à la Ring of Honor, à Impact Wrestling, à la Progress, à la Evolve, à la WXW, dans toutes les... Voilà, quand il n'y a plus de taf à tel endroit, eh ben on va chercher du taf ailleurs. Si la All Elite Wrestling, elle récupère un John Moxley et un Brody Lee, eh ben tant mieux pour elle. Et voilà, c'est comme ça. Moi, je ne vais pas aller cracher sur les workers qui, ils ont un contrat qui s'est terminé avec la WWE, ils vont voir ailleurs. Et en ce moment, qu'est-ce qui est hot dans le monde du catch américain, c'est la All Elite Wrestling. Donc, aller pécho du contrat là-bas, moi, c'est pas moi qui vais jeter la pierre aux catcheurs de faire ça. C'est eux qui sont les stars du business. C'est eux qui font tourner le business. Ils vendent leurs services au plus offrant, au plus chaud du moment. Et voilà, donc voilà, le débat pour moi des ex-WWE, il sert à rien. Tu vas aller reprocher, je sais pas, on pourrait donner des exemples cons, mais un mec qui a joué à Chicago pendant des années et LeBron James, il était à Cleveland et puis finalement il est parti à Miami. Donc effectivement, tout ça fait des espèces de psychodrama sur des trucs comme ça, mais au final, c'est Brody Lee versus John Moxley, c'est la All Elite Wrestling et c'est cool comme ça. Et franchement, entre le personnage de Luke Harper de la Wyatt Family et le personnage qu'on a à l'heure actuelle de Brody Lee avec le Dark Order, voilà, on est un peu dans un autre monde, non?
Carrément. Mais en plus, je pense que la plupart des critiques, c'est pas forcément la cible, c'est pas forcément les catcheurs et les catcheuses. C'est
non,
plus
oui,
la fédération.
Comment
en fait, All Elite a marqué peu sa volonté de se différencier de son produit et de son traitement par rapport à la WWE. Je pense que les plus vieilles critiques pointent du doigt le fait, vous dites que vous voulez faire tout différent à WWE, mais du coup, vous engagez les mêmes catcheurs. Mais si c'est pour leur donner l'opportunité de faire autre chose, là, c'est intéressant. Et là, vraiment, ce match de titre qu'on va avoir à Double or Nothing va être intéressant à regarder et analyser pour voir est-ce que du coup la Elite répond présent à ses intentions, est-ce qu'ils vont vraiment pouvoir faire autre chose, un truc différent. Moi j'ai bon espoir, en tout cas j'ai hâte de voir ce match là à plusieurs niveaux, notamment sur le niveau analyse.
De toute façon on rigole sur le fait des catcheurs anciens WWE parce que c'est normal, on a eu un affect pour eux du temps dans la Big League. Et donc fatalement leur nom il restera à jamais, quoi, tu vois, quoi. Ambrose, Moxley, le Shield, tout ça, ça restera imbriqué pour tout le reste de sa carrière. Et c'est tant mieux comme ça, quoi, de toute façon. Et moi, ça me va bien. Je t'avoue que, très franchement, quand je regarde les shows de la All Elite Wrestling, je ne pense pas à ça, en fait.
Ouais, moi non plus.
Moi, je regarde Brody Lee, je regarde John Moxley, je ne pense pas à « Ah ouais, mais la WWE, tu vois, pendant que je suis dans le show, je ne pense pas à ce genre de... Donc, c'est que quelque part, ils réussissent le job, voilà.
Ouais. En tout cas, moi j'ai bien apprécié vraiment le temps qui a été donné à Kazarian dans le match. Et j'aime bien ce côté aussi All Elite où ils mettent en avant, c'est pareil, c'est un de leurs statements, un de leurs intentions clairement depuis le départ de redorer un peu le blason du tag team wrestling. Mais pas seulement en match tag team, quand ils font aussi des matchs en simple, et bien du coup ils sont pas jobés ou squashés comme des nazes. Parce que quand t'as un mec d'une équipe qui fait un match en simple contre quelqu'un qui est un single compétiteur, là encore plus le champion, du coup, généralement, le match est plié rapidement, quoi. Donc là, vraiment, j'ai apprécié le fait qu'il donne du temps, comme Scorpio Sky à l'époque où il avait fait son match contre Jericho quand Jericho était champion. Bref, voilà, ils ont acquis le fait que les tag team wrestlers sont aussi de très bons catcheurs contre des gars qui sont des single compétiteurs, quoi. Et ça, c'est plutôt appréciable, je trouve. La suite, on a une petite vidéo de Brandi Rhodes qui a un message tout personnel à l'attention de Jake the Snake Roberts, puisqu'effectivement, Jake, depuis qu'il arrive avec Lance Archer et qu'il cherche l'attention de Cody, eh bien, il utilise régulièrement le nom de Brandi pour trigger et faire péter un plomb à Cody en parlant de sa femme, en la traitant de Monica Lewinsky de Wickington, Cléopâtre de César, etc. Cody aimait les choses claires sur la table. Je suis rien de tout ça, tu me connais pas, n'emmerde pas, Jack, les gens que tu ne connais pas. Je suis Brandi Rhodes, je suis la Chief Brand Officer, et à partir de maintenant, tu vas garder mon nom en dehors de ta sale bouche de vieux tocard. Voilà, cash, hein, elle est directe. Et suite à ça, bah, elle accompagnera au ring Cutie Marshall de la Nightmare Family, qui a un match contre Lance Archer afin de venger un petit peu du coup Dustin Rhodes, hein, qui s'est fait démonter la semaine dernière. Donc bien sûr, Jack arrivera aussi. Jack restera un peu sur les escaliers proche du ring pour superviser le match. Donc petit match entre Cutie et Lance Archer qui durera quand même, mine de rien, un peu plus de 7 minutes. Donc on n'est pas dans un squash du tout, hein. 7 minutes de catch, même si Lance Archer très majoritairement nocelle quasiment tout ce que lui fait Cutie, bien sûr il ira un peu à l'extérieur, il prendra quelques coups, mais jamais on aura l'impression que Lance Archer sera réellement inquiété durablement face à Cutie, et c'est bien sûr un gros blackout qui finira le match, et comme la semaine dernière, Lance Archer fera le tomber en posant ses deux grosses paluches sur la tête écrasée contre le ring de son adversaire pour le compte de 3. Post-match, on a une petite altercation puisqu'il y avait Britt Baker hein, qui était autour du ring hein, et qui, à un moment donné, lorsque Cutie Marshall était dehors, avait fait comme la semaine dernière avec Cody, lui avait donné un coup de chaussure sur la tête. Brandi, voyant ça, elle est arrivée, elle a pris la chaussure de Britt Baker et l'a balancée très loin dans l'arène. Et bien, à la fin du match, Britt Baker en a marre, débarque et donne un DDT à Brandi Rhodes hein, sur le sol et remet Brandi dans le ring où il y a encore Lance Archer qui regarde le corps inanimé de Brandi Rhodes, une pensée sadique lui parcourt le visage. Les commentateurs se sont glacés d'effroi en la perspective de ce que pourrait faire Lance Archer à Brandi Rhodes. Est-ce qu'il va lui mettre un blackout aussi? On ne sait pas. Mais Jake débarque dans le ring avec un vieux copain à lui, le gros serpent, le python constructeur hein, qui a mis le snake dans Jake the Snake Roberts. Et donc, Jake lâche son python sur le corps inanimé de Brandi, le python qui se balade sur le corps de Brandi Rhodes. Donc, c'est avec cette image perturbante que le segment se termine. Jake teasera le fait de lancer le serpent dans la foule qui, bien sûr, a peur. Donc voilà, est-ce que ce retour du serpent, est-ce que toi t'avais connu Jake à l'époque où il était
mais carrément, mais là gros spot old school, hein. Là c'était voilà de retour aux belles heures. Il y avait eu la dernière fois qu'on l'avait vu faire, c'était avec le Shield justement, et c'était avec Dean Ambrose justement, avec Don
Moxley
et John Moxley. En fait, il était tellement heureux de partager le ring avec Jake the Snake, en fait, quand Damian il passe sur le visage et tout, le Dean Ambrose, il a un petit sourire, quoi, un petit sourire heureux d'être là, quoi, incroyable. Ouais. Mais Jake the Snake, c'est que il y aurait tellement mille anecdotes avec lui. André le Géant était terrifié par Jake the Snake, quoi, parce qu'André le Géant avait une peur farouche des serpents. Et aussi, le serpent de Jake the Snake avait mordu le Macho Man sur le ring, en direct. Un truc
complètement... dans les pecs, voilà. Non, c'est pas ça.
Je sais plus si ça avait été dans le bras ou dans un pec, mais il me semble que c'était un bras. Et il avait été mordu, enfin incroyable, avec Jake the Snake, il s'est passé des choses complètement folles, quoi, dans le ring, quoi. Et donc, que Brandi, elle accepte un spot pareil, quoi, c'était quand même assez incroyable, quoi. Ce démolissage, au passage, hein, vite fait, juste, hein, voilà, hein, pendant ce temps, Lance Archer continue son opération de démolissage. Ouais. Voilà, entreprise de BTP, Lance Archer. Voilà, quoi. Et efficace, quoi. Enfin, lui, s'il a un peu de temps, il viendra nous réparer la Notre-Dame ou pas entre midi et deux.
C'est plus la démolition que la construction. Il est spécialisé focus. Hein, il sait faire un truc, il le fait très bien, mais c'est qu'un seul truc. Hein. La construction, c'est l'architecte.
Quand il passe son blackout sur Marshall et qu'il casse lui-même le tombé, là. Mais là, tu te dis, mais putain, mais j'aimerais pas que ce mec-là, il me tienne entre ses poils. Oh, parce qu'il va me déboîter les cervicales en puissance 1000. Ah ouais, non, mais voilà. Et donc, voilà. Donc écoute, encore une fois, j'ai bien aimé tout ce spot avec Jake, avec Lance, avec Brandy. Voilà. Respect, Brandy, d'avoir le serpent comme ça. Parce que moi-même, comme André le Géant, j'ai eu une peur terrible des serpents.
On et apprend une faiblesse du tournoi.
Ah ouais, une de mes faiblesses, les serpents, ça fait partie de mes faiblesses.
Ok, bon savoir. Si un jour on s'affronte dans un ring, je sais ce qu'il me restera à faire. Donc on nous annonce aussi un peu le programme la semaine prochaine. La semaine prochaine, on a MJF qui est en action. On a Brody Lee contre Christopher Daniels. On a, comme je le disais, Jurassic Express contre Best Friends. On a Jake Roberts et Lance Archer qui auront un long interview. Le Fatal 4-Way féminin entre Shida, Ford, Baker et Statlander. Et on aura aussi Chris Jericho en action, et Chris Jericho, on apprendra qu'il, la semaine prochaine, il affrontera Pineapple Pete, hein, donc le mec avec des chemises à motif ananas, qui trash talk chaque semaine quand il est au commentaire Chris Jericho, eh bien il aura un match contre lui la semaine prochaine. Et on nous annonce aussi que pour le Double or Nothing pay-per-view, donc fin mai, on aura aussi un Casino Ladder Match. Pour un shot, un match pour le titre AEW World Championship, donc du coup une espèce de combo Money in the Bank et Battle Royale, hein, puisque du coup c'est un ladder match, mais le vainqueur gagne une opportunité au titre, donc du coup c'est un peu une combo des deux. Donc voilà, bah, pourquoi pas avoir, hein, ça sera l'occasion d'avoir un gros ladder match sympa du côté de la
Ouais, le dernier en date, c'était avec les tag team, je ne sais plus dans quel pay-per-view, où il y avait les Lucha Brothers, d'ailleurs, qui me manquent, les Lucha
Brothers.
Ouais,
grave.
Il faut qu'ils reviennent, absolument.
Mexiking, zéro meilleur.
Écoute, du coup, il y a 4 matchs annoncés déjà pour Double or Nothing. Ça commence plutôt pas mal, et puis cette finale du TNT Championship versus Lance Archer, moi je suis hypé à mort pour ce match, donc allons-y.
Tout à fait. Et bien, allons-y pour le main event aussi. Pour le main event qui nous était annoncé, c'est Chris Jericho et Sammy Guevara, hein, du Inner Circle, et leur duo s'appelle le Sex Gods, donc et le dieu du sexe, contre Kenny Omega et Matt Hardy. Donc là, on renoue avec la rivalité Inner Circle versus The Elite. Donc peut-être que tout ceci nous tease, hein, je ne sais pas, peut-être pour Double or Nothing, si les conditions sont bonnes, on aura peut-être droit au fameux Blood and Guts match. Ça serait plutôt cool, ça compléterait bien la carte, qui serait une carte assez alléchante. Donc du coup, voilà, on est dans un street fight, Fall Count Anywhere, entre les deux équipes. Donc là, aussi un gros match, hein, 19 minutes, quasiment 20 minutes de match.
20 minutes de match. Ouais.
Et ils seront allés partout. Vraiment partout, là où il y a la concession avec le merchandising, dans les trucs où on vend les boissons avec des friseurs de glace,
le parking, voiture de golf,
le
Matardi qui catch quasiment tout le truc avec son espèce de manteau,
Ouais. Savoir que donc Matardi débarque en broken mat.
Ouais.
Il arrive en broken mat et très rapidement il se fera prendre à partie par Jericho. Donc c'est Jericho contre Matardi et Sammy Guevara contre Omega. Et donc Matardi qui commencera par mordre le doigt de Guevara avant le début du match, et très rapidement donc Jericho ira se bastonner avec Matardi dans les espèces de tubes, de tunnels d'entrée avec les LED là. Et des néons, et donc Jericho balancera Matt Hardy dans le tube de néon et se fracassera à l'intérieur. On ne verra plus Matt Hardy pendant un petit moment jusqu'à ce qu'il revienne, mais habillé différemment. Il reviendra en Team Extreme Matt Hardy, donc Matt Hardy de son époque avec son frère Jeff, hein. Donc voilà, il fera le match en changeant son moveset, en faisant des side effects, des twist of fate, etc., en faisant un spot où il sautera sur une table, etc., donc vraiment Team Extreme. Et à un moment donné, il se fera mettre par Sammy Guevara et Chris Jericho dans un congélateur. Il restera là un petit moment, et 2-3 minutes après, il ressortira habillé en Damascus, un autre alter ego. Bien sûr, pendant ce temps, eh bien, il y avait Jack Hager qui était au côté du ring, qui participera au match, parce que c'est un street fight, donc il n'y a pas de disqualification. Et ça tourne à n'importe quoi, et donc effectivement, à un moment donné, Matt Hardy Donc Damascus Matardi monte dans une voiturette de golf avec Kenny Omega et les deux roulent sur Chris Jericho, roulent sur Sammy Guevara qui se prend un vilain
sport. Il se mange
la voiturette de golf à pleine vitesse entre guillemets. Hein, je sais pas, ça va peut-être 20 km/h ou 15 km/h. Mais quand même, le spot est assez impressionnant.
Ah oh, mais c'était énorme.
Donc plein de spots effectivement, des tables, des chaises, des plateformes qui s'élèvent, enfin c'était n'importe quoi. À un moment donné, ils sont carrément quasiment à l'extérieur, puisqu'en fait à côté du Daily Place, il y a le stade de football, donc ça finit quasiment sur le stade de football américain. Donc malgré les trois alter ego et de Matardi, malgré la voiturette de golf, eh bien ça sera trop pour les membres du Z-Edit, hein, de Inner Circle gagnera puisque sur la fin, eh bien c'est Santana et Ortiz hein, qui viendront prêter main forte à leurs collègues du Inner Circle hein, qui sont soudés comme jamais, comme personne. Et donc du coup, bien victoire de Chris Jericho et de Sammy Guevara. La fin, le Inner Circle célèbre avec donc en fond le gros stadium de football américain et avec l'écran de LED du football américain, du stade, qui s'illumine au logo du Inner Circle. Et on nous apprend que la semaine prochaine, eh bien, il y aura un match. Ça sera Matardi et Omega contre Santana et Ortiz cette fois-ci. Donc, on continue la feud Inner Circle versus Z-Elite. Qu'est-ce que tu as pensé de ces 20 minutes?
Tu m'as entendu me marrer. Moi, j'ai adoré. Ah, ouais. Voilà, mais moi, j'ai kiffé, mais grave. Mais le moonsault de Kenny Omega du haut de l'élévateur, là, mais. Toute la séquence avec la voiturette de golf, mais putain, mais j'en pouvais plus, quoi. Mais c'était... et après, le Matardi qui passe à travers les tables à la fin par l'Inner Circle et tout. Ah, ouais. Mais moi, je me suis éclaté du début à la fin, quoi. Mais comment? Mais je me suis poilé, quoi. Mais alors, écoute, ça m'a fait plaisir. Ça faisait longtemps. C'était quasiment un match de comedy wrestling pour moi, quoi. Tout ce beatdown dans le backstage du stade de foot, là. Des Jaguars, là, c'était énorme. Le t-shirt de Kenny Omega à Wazir. Il y avait plein de petits détails. Jericho, il met une powerbomb sur le toit de la voiturette de golf. Et que l'autre, il a tout l'Inner Circle au cul qui est en train de le massacrer avec le hanger qu'il traîne comme une vieille.
Oh non, oui. Mais. Il le chope en headlock et il le traîne partout.
Il le traîne partout sur 15 mètres. Et Jericho vient lui remettre une clothesline, ou non, enfin, son Judas Effect.
Judas Effect, ouais.
Voilà, ouais. mais moi, j'ai kiffé. Ah non, mais franchement, moi, tout le main event, là, ça est du début à la fin, ça m'a fait poiler. C'est n'importe quoi. C'était complètement what the fuck et j'adore. Alors là, vraiment, là, j'adore. Quand ça part complètement en vrille comme ça, bah, moi, je suis un bon client pour ça, quoi.
Ouais, et sachant qu'on a eu l'occasion de voir un concept que voulait faire Matardi depuis un petit moment, il en parlait sur ses vidéos, etc., c'était d'inclure ces différents avatars, hein, ces différentes personnalités au sein d'un même show, au sein d'un même match. Et ben là, ça y est, on a eu trois incarnations différentes de Matardi au sein d'un même match. Je trouvais que c'était plutôt pas trop mal géré, hein, sur les transitions et les changements. Moi, quand vraiment, au début du match, quand il se fait... péter la gueule par Jericho dans le tunnel de néon et qui débarque 4 minutes plus tard en traditionnel Extreme Matardi, j'ai fait qu'est-ce que c'est que ce truc. Et quand on ressortir du congélateur fringué différemment, c'est-à-dire que les mecs ils ont mis dans le congélateur les fringues de machin, ouais, voilà, c'était cool, c'était fun, c'était n'importe quoi, un gros street fight, voilà. C'est il y a toujours des gens pour aller que c'était pas un match techniquement mais c'est un folk continuer street fight match avec deux factions qui s'affrontent, donc forcément au début c'est 2-2 puis ça finit par 5-2. Voilà, c'est un, je trouvais ça cool, quoi. Je trouvais ça effectivement très cool, marrant, avec du beau spot, du gros spot, non, c'était bien. C'est une très bonne façon de finir le show. Moi, j'étais content. À la fin du show, j'ai vu que c'était un bon dynamite. Puis voilà, un gros match de 20 minutes, ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Il est temps de passer du côté de l'autre côté de la Floride, hein, pas Jacksonville, mais à Orlando pour le Performance Center. On passe sur USA Network pour regarder le NXT. Un NXT avec une carte très alléchante, hein. On a deux matchs pour le titre, on a le début de Karrion Kross de Scarlett, on a Finn Balor qui vient confronter son agresseur. Bref, une carte qui était presque du takeover level. Et on avait un peu la crainte, toi et moi, qu'une heure et demie, c'était peut-être pas assez pour cette carte. Eh bien, on va voir ça dans le détail. On commence par un des matchs qui était annoncé, Johnny Gargano contre Dominik Dijakovic. Voilà, hein, Dominik Djakovic, la semaine dernière, qui avait exprimé son avis tout à fait négatif par rapport aux actions et aux exactions de Johnny Wrestling depuis son revirement et depuis son psychodrame en confinement avec sa femme. Donc Johnny Gargano qui débarque, nouvelle tenue, nouvelle musique, nouveau titre entrant, une musique un peu étrange, bien sûr, plus lugubre et sombre que sa musique entraînante d'habitude. Donc voilà, un petit match entre les deux, hein, de 7-8 minutes, il me semble, de mémoire. Et bien rapidement, dans le match, à peu près la moitié, débarquera Candice LeRae, qui sera là pour faire des distractions et permettre à son mari d'avoir des ouvertures contre le géant croate Djakovic. Et bien, c'est ça qui ferait la différence. C'est bien sûr les interventions de Candice LeRae qui abandonnera, ne fera jamais de tricherie, ne viendra jamais frapper directement Djakovic, mais viendra essayer de traîner son mari à l'extérieur pour l'aider, etc. Et sur la fin, Gargano qui aura lutté à de multiples reprises pour enlever la protection d'un des coins du ring, y arrivera, balancera Djakovic tête première sur le coin du ring, le coin du poteau complètement exposé. Djakovic vend la blessure et Gargano fait son slingshot DDT, ce qu'il appelle maintenant le Wine Final Beat, le dernier battement de cœur pour la victoire. Johnny Gargano donc remporte la victoire lors de son premier match suite à son heel turn. Qu'est-ce que tu as pensé du match et plus particulièrement, on va dire, du heel turn de Gargano dans le ring? Est-ce que tu as senti une petite différence dans son moveset ou
Ouais, de toute façon, voilà, ça y est, c'était lancé, il était en plein sur la piste. C'est parti. Moi, je t'avoue, c'est le match en lui-même qui m'a, malheureusement, dans lequel je ne suis jamais trop rentré. Mm-hmm. Parce que, je sais pas, c'était court, j'ai trouvé ça. Effectivement, même si Candice, elle n'a pas fait d'intervention directe, mais elle était présente et suffisamment pour soi-disant gêner Dominik Dajakovic. Et je sais pas, je trouve un peu dommage de voir Dajakovic perdre un match comme ça en 8 minutes. J'ai trouvé ça un peu expédié, j'ai eu du mal avec le combat, quoi. Voilà, j'ai eu vraiment du mal à rentrer dedans. Ça n'a pas été un truc qui m'a super emballé. Voilà, le heel turn de Johnny Gargano, voilà, et de toute façon, est assumé, confirmé, entériné. Voyons vers où ça va le mener maintenant.
Très bien.
Dajakovic, j'espère le revoir sous d'autres cieux.
Ouais.
Voilà.
Ouais, moi j'avoue, Johnny Gargano dans son repackaging, la musique, je suis pas fan, je trouve que ça lui va pas, ce style de musique. Pour te dire, quand j'ai entendu la musique au début, j'ai cru que c'était l'arrivée de Karrion Kross et de Scarlett en fait. Hein.
D'accord.
Je trouvais que ça correspondait bien aux trucs un peu lugubres, Doomsday Clock, etc. Mais non, j'ai vu Gargano, j'ai fait ok, choix original, intéressant pour Johnny Gargano, mais je trouve que même en heel, il a pas la tête de l'empoint, hein, il a pas la tête qui le look qui va avec cette musique là. Bref, voilà, ça reste encore à travailler tout ce repackaging. On a une petite vidéo au sujet des champions de tag team, hein. Donc on voit Marcel Bartel et Fabien Eichner de Imperium, voilà, qui disent en gros que le ring est sacré pour eux, que Matt Riddle et son nouveau copain là, comment il s'appelle, Timothy Thatcher, c'est un peu des clowns et que eux deux ils vont rendre la splendeur aux tag team titles et que du coup il lance un challenge officiel, donc une petite vidéo qui était courte, hein, qui ne raconte pas grand-chose, mais qui était, je trouve, pas mal faite. Hein. C'était bien filmé, l'angle de caméra était intéressant, il y avait une bonne qualité un peu hein, de production, c'était assez cool. Je trouvais que ça mettait bien en valeur les deux Européens pour les asseoir dans la chasse du titre. Donc clairement, visiblement, excite hein, les Indiens qu'on nous présentait il y a 3-4 semaines. Ouais. Et c'est maintenant les Européens, finalement, qui prennent le spot, hein, qui clairement vont avoir un match de titre pour les titres, pour les ceintures. Donc, c'est pas plus mal. Hein, parce que
C'est logique. C'est ouais. Logique. Une période, depuis le début du confinement, ils sont là, ils sont présents, quasiment à tous les shows. Il n'y a que Walter qui a été mis en retrait du fait qu'il est confiné en Angleterre. Mm-hmm. Enfin, moi je considère que c'est mérité que ça soit d'abord les Imperium qui soient lancés dans la course de la Tag Team Division.
Oui, puis en plus je trouve plus intéressant, plus établi. Oui,
c'est surtout, ils sont plus établis et je considère que c'est quand même d'autant plus mérité qu'ils soient présents dans cette course.
Complètement.
Dans cette course aux ceintures.
C'est mérité, tout à fait. On passe à un autre match qui est un match pour le tournoi Cruiserweight, parce que, eh oui, malgré le fait qu'on a deux matchs de titre ce soir, on a encore des matchs pour le tournoi Cruiserweight, et là, cette fois-ci, c'est Akira Tozawa contre Jack Gallagher,
voilà.
Tozawa qui avait une victoire, Gallagher qui avait une défaite, et eh bien, pour une fois, ils vont pas chercher l'égalité parfaite, puisque donc c'est Tozawa qui marque cette deuxième victoire dans le tournoi, une petite promo à la fin du match où il raffirme sa détermination. Il est très focus hein, depuis le début du tournoi Tozawa. Il dit le prochain adversaire c'est bien sûr Fantasma, il ne connaît pas, il ne sait pas qui il est, mais
il va le connaître.
Tozawa va gagner,
il va apprendre à le connaître, moi je te le dis.
Ouais, enfin s'il ne se fait pas enlever hein, d'ici là hein, puisque...
ouais on ne sait jamais, ouais.
On sait jamais. Ah ouais. Donc voilà, j'ai été surpris hein, de voir hein, ce match l'arrivée. Je pensais qu'on n'aurait pas de match Cruiserweight cette semaine, vu la carte qui était déjà bien chargée. Le match n'était pas très long, hein, il faisait à peine 5 minutes.
Minutes de match. Là, quoi. Non, bah, franchement, le match était absolument sans intérêt. Alors que à l'arrivée, Tozawa et Gallagher, ils sont capables de livrer une belle une petite prestation entre les cordes. Et là, franchement, pour moi, ça n'avait aucun intérêt. Quoi. Ça a duré 3 minutes, ça a été expédié. Voilà, Tozawa, il a dit 5 mots en sortant, quoi, et que voilà, qu'il battrait Hero del Fantasma, ce dont je doute totalement, et parce que Hero del Fantasma, Akira, je suis désolé, mais il va te plier en 4. Et puis voilà, écoute, le petit tournoi Cruiserweight continue, plutôt sympa, mais si c'est pour leur donner des matchs comme ça, ben franchement, c'est pas terrible.
Ouais.
Enfin, moi, j'ai trouvé ça pas terrible.
Eh ben, notre match de 3 minutes avec plus d'intérêt, c'est Xayali contre Chessy Green. Très rapidement, il va y avoir Alia qui débarque aux abords du ring et qui viendra pointer le bout de son nez cassé dans le match, ce qui permettra de faire une distraction et permettra à Chessy Green de faire son unprettier pour la victoire. À la fin, Robert Stone tendra sa main à Alia afin qu'elle se relève et lancera une petite invitation qui laisse peut-être supposer que Alia rejoigne la Robert Stone brand et peut-être qu'il ne sera plus seulement le manager de Chessy Green, mais elle sera effectivement le leader d'une faction féminine. Donc voilà, un match là aussi ultra court qui, à part ce petit truc de storyline, ne sert pas à grand chose, j'ai trouvé. Est-ce que tu as trouvé un intérêt à ce match?
Voilà, j'ai trouvé aucun intérêt à ce match. Voilà,
ah, bah très bien.
Ouais, voilà.
Voilà, on va pas s'éterniser de suite. Hein. On va plutôt parler d'un truc qui, là où on a des trucs à dire. Alors, l'arrivée, enfin. Karrion Kross et Scarlett Bordeaux qui débarquent officiellement à NXT dans le ring avec une intro qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit sur Internet. Ouais. Et c'est mérité parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup de soins apportés aux ongles de caméra, à la vidéo. C'est en noir et blanc. On voit le titan tronc avec un décor lugubre, une forêt avec des brumes, un brouillard, un corbeau qui vole vers nous, une silhouette en ombre chinoise féminine avec un grand manteau un peu drapé, une musique très doom metal, hein, donc du metal assez sombre, et Karrion Kross qui arrive se mettre devant dans Scarlett. On voit sa stature, hein, Karrion Kross qui est de suite impressionnant physiquement. Il a un physique qui me rappelle un peu le Rock, mais en moins volumineux, un peu moins gonflette, on va dire, mais c'est pareil, c'est ce côté crâne rasé, muscles luisants, gros tatouage, stature très importante. Et donc, du coup, une chanson féminine, c'est Scarlett qui censément chante. Donc, on voit Scarlett Bordeaux qui, elle, effectivement, très, très gothique aussi, une coiffure un peu set cut, gros maquillage très marqué sombre, lèvres très rouges, des barésies, un collier noir, et donc des paroles de chansons qui annoncent là aussi, encore une fois, l'apocalypse. La pestilence, vous ne pouvez pas y faire face. La seule chose qu'il vous reste à faire, c'est de vous agenouiller, tomber à terre et prier pour votre salut, on ne sait pas. Et donc voilà, une intro qui était cinématiquement assez chiadée, j'ai trouvé, hein, qui était beaucoup de brouillard, beaucoup de fumée. C'était cool, moi j'ai trouvé ça très cool.
Ouais, bah moi aussi, pareil, quoi. J'ai trouvé cette entrée excellente, c'était super bien réalisé et voilà, démontage en règle du jobber comme il faut, quoi.
Carboriser.
Il s'est fait, voilà. Et puis ça, son finisher, son cross jacket submission là, c'est du velu. C'est voilà. Non, franchement, carrément impressionné par l'entrée des deux zozos, voilà, de Scarlett et de Karrion Kross là.
Ouais.
Là, voilà, bah, en fait, là, Karrion Kross, il m'a fait l'effet un peu bah, quand j'ai découvert Lance Archer à AEW. Là.
Donc, ouais, il y a un peu ça.
Mais je l'avais vu un tout petit peu, je le connaissais un tout petit peu parce que je l'avais vu dans quelques segments à Impact.
Impact.
Non, pas, il n'était pas à Lucha Underground.
Ah, d'accord, je croyais.
Ah non, il n'était pas à Lucha Underground. Par contre, effectivement, je l'ai vu dans quelques segments. Donc, je le connaissais quand même physiquement. Mais là, je l'ai trouvé encore plus, voilà, encore plus monstrueux. On sent qu'il a bossé pour préparer son arrivée à mort. Et là, ouais, grosse impression de Karrion Kross pour commencer.
Ah oui. Et là, il est vraiment tout packaging de l'intro, la fumée, les lumières, etc. En font vraiment, augmente son charisme. On dirait vraiment que c'est une super méga star, quoi. Enfin, il est présenté, il arrive comme étant le taulier, quoi. Donc, du coup, ça renforce sa présence dominante et inquiétante dans le ring. Effectivement, un squash où le jobber Leon Ruff hein, de la Evolve vend le premier coup comme étant peut-être même le dernier. Hein, et vraiment, il aurait pu faire le tomber après son premier Doomsday Saito, il aurait gagné. Vraiment, le jobber vend ça comme étant comme s'il avait une commotion cérébrale, comme s'il avait le dos qui était pété en 8000. Donc, voilà, il est promis à de très gros résultats, Karrion Kross, assez évident. Pour ceux qui avaient un doute, rien que voir le soin apporté à son intro,
eh ouais.
Ça va déménager. Donc, quelqu'un qui va clairement choper un titre ou des titres dans un futur pas si lointain, je pense, parce qu'il est. Voilà, ça va être compliqué d'ailleurs de gérer. Quand tu as des gens comme ça qui débarquent avec autant de hype et présentés aussi dominants, c'est un peu compliqué de gérer leur montée en puissance dans la chaîne alimentaire. Est-ce qu'ils vont le faire faire des squash contre des jobbers pendant X semaines avant d'avoir un match sérieux? Je ne sais pas. Je pense qu'ils auraient un peu tort de faire ça parce que on a vu ce schéma un peu trop souvent, surtout à NXT.
Ah, ça dépend parce qu'en mode confinement, peut-être qu'ils vont peut-être attendre ouais. Justement, tu vois, d'avoir du retour de public pour pouvoir commencer à faire un vrai impact avec ce couple-là. Mmh. Et que peut-être qu'effectivement, pour encore le temps du confinement, on va encore avoir droit à quelques squashs de la part de Karrion Kross.
Oui, quelques-uns, je veux bien, tu vois, deux, trois, mais pas que ce soit des semaines et des semaines et des semaines, comme certains ont eu, hein, comme les Viking Raiders, ouais, comme Aleister Black, etc. Quoi. Sachant que certainement, le premier gros match contre quelqu'un sérieux qu'aura Karrion Kross, ce sera Ciampa, puisque Ciampa a été agressé par Karrion Kross.
Oui.
C'est logique que Ciampa vienne se venger et demande des comptes.
Il y a de fortes chances, ouais.
Ouais. Donc voilà, grosse première impression en tout cas. Moi, c'est pour ça que j'aime bien NXT. Hein, c'est ce côté assez culture rock, culture metal, avec on met les moyens, on fait des intros qui, même dans un weekly, des trucs qui claquent. On n'attend pas les gros pay-per-view une fois l'an pour faire des trucs qui envoient du lourd. Ça, j'aime bien. J'aime bien ce traitement-là. On a un rapide segment backstage entre Matt Riddle et Timothy Thatcher qui disent ok, bah du coup juste bah ils acceptent hein, le match, le défi lancé par Imperium. Hein, donc voilà, on aura le match sous peu pour le titre entre les deux équipes. Rien d'autre à plus de dire à ce sujet-là. On passe de suite à un des deux matchs de titre du soir, le match pour le titre féminin entre la championne Charlotte Flair et la first contender Yoshirai. Donc un match qu'on attendait, toi comme moi, avec impatience, hein, très clairement. Un match qui, eh ben, malheureusement, comme on en avait peur, ne sera pas très long. 7 minutes, je crois.
Eh ouais.
Ouais. 7 minutes, mais il finira eh bien, en eau de boudin, comme on dit, puisque le match était assez disputé. Hein. On voit que Charlotte, qui était toute confiante, déchante un petit peu et commence à comprendre contre qui elle cache ce soir hein, et commence à sentir toute la technicité et la vitesse de Yoshirai. Elle commence un peu à grincer des dents, la Charlotte, jusqu'à ce que bah, Shirai fasse son moonsault hein, à l'extérieur. Charlotte évitera ça de justesse et chopera un kendo stick pour attaquer Yoshirai. Donc disqualification, victoire de Yoshirai par disqualification. Charlotte effectivement continue à agresser Yoshirai en faisant son figure four lock, leg lock sur le poteau à l'extérieur. L'arbitre essaie de calmer tout ça, il n'y arrive pas évidemment jusqu'à ce que quelqu'un débarque, Rhea Ripley. L'ancienne championne qui a perdu son titre à WrestleMania contre Charlotte débarque pour sauver hein, plus ou moins Yoshirai, ou plutôt pour fermer le claquet de Charlotte. Charlotte qui battra en retraite. Yoshira qui sera toute boitante, engueulera Rhea Ripley, en gros, mets-toi de tes affaires, hein, dégage ta gueule. Rhea Ripley lui dira aussi, ben non, mais ferme-la, tu devrais me remercier, je t'ai aidé. Et un peu plus tard, backstage, on aura Rhea Ripley qui sera interviewée, donc la trash talk Charlotte, évidemment, jusqu'à ce que Yoshira débarque, s'embrouille avec Rhea Ripley, tout ça pour nous vendre très certainement eh bien, un match entre les deux. Donc du coup, est-ce que ce finish qui n'en est pas vraiment un, ça va ou grosse déception? Petite déception ou grosse déception?
Ouais, une déception de déception, quoi. Voilà, 7 minutes, pour moi, c'était vraiment... Non, c'était pas assez. Voilà, j'en ai pas assez vu. J'étais pas, j'étais assez frustré de ce match. Ça m'a pas... Ça ouais, j'étais assez déçu, quoi. Le retour de Rhea m'a fait super plaisir. Il n'y a pas de problème. Je suis bien content qu'elle revienne dans le game. Bah, normal, elle s'attaque direct hein, sur Charlotte. Elle n'est pas venue pour faire plaisir particulièrement à Shirai. Hein. Elle est vraiment...
Non, non, non.
Elle avait décidé de péter de la mâchoire, là. Et qu'elle n'était pas contente. Et c'était très bien comme ça. Mais voilà, 7 minutes pour un championnat qui nous avait, un match championnat qui nous avait quand même qui était bien, bien, bien vendu. Quoi. Mmh. Donc, moi, ça a été plutôt une déception, tout ce truc-là. Ouais. C'est trop dommage. Voilà, juste, voilà, moi, ce que j'en retiendrai, c'est le retour de Rhea. Et voilà, et du coup, le match restera pas du tout dans mes matchs de l'année. Voilà.
Non, ça, c'est clair. Ça c'est clair.
J'aurais été client pour le coller dans mes matchs de l'année dans des belles et bonnes circonstances.
Ouais. Bah, moi aussi, hein, déception évidemment. Je voulais un gros match entre les deux. Je voulais qu'ils aient au moins un quart d'heure, quelque chose comme ça. Par contre, là où finalement, en termes de storytelling, c'est pas déconnant, c'est que du coup, ouais. le match qu'on aurait voulu d'un quart d'heure, on l'a pas eu parce que Charlotte. Est une heel, Charlotte arrogante a triché, donc du coup notre frustration, eh bien, c'est à cause de Charlotte qui triche, donc finalement ça renforce la hit que je peux avoir pour Charlotte, donc en termes de storytelling c'est cohérent, si tu veux, c'est, voilà, c'est, je suis pas juste blasé parce que c'est le booking qui fait qu'on a eu un match qui était trop court, non, il y a eu un arrêt disqualificatoire à cause des exactions de Charlotte, donc du coup je suis plutôt content effectivement que ça soit comme ça et pas un match plié, que Charlotte gagne clean contre Shirai en 7 minutes, quoi. Ça aurait été le pire de tout, quoi. Donc voilà, c'est, peut-être qu'on aura, hein, peut-être qu'il y aura un affrontement entre Rhea Ripley et Yoshirai, ce qui finira d'entériner qui est la first contender pour un gros match long contre Charlotte, je ne sais pas. À suivre.
Ouais.
On a re un match pour les Cruiserweights, cette fois-ci entre Kushida et Jack Atlas, les deux.
On a un match de 3 minutes.
Chacun une victoire. Victoire de Kushida en 3 minutes, effectivement, vraiment en 3 voilà, ou 2, ouais. 2 mi-jours, c'était. Voilà.
Ouais, bah, encore une grosse déception, hein. Franchement, comment c'est traité. Si c'était pour nous faire un tournoi en mode J1 Climax et puis finalement nous sortir des matchs de 3 minutes pour les mecs. Alors, ouais. Jack Atlas et Kushida avaient tous les deux gagné leur premier match, donc voilà, ça va s'attendre à un match avec de la compète, tu vois. Et au final, on nous file 3 minutes, quoi. Ouais, bon, bah ok, terminé, il n'y a rien à voir. Bon, circuler.
Ouais, surtout qu'en plus, voilà, entre ce match-là et le match précédent du Cruiserweight Championship, tu prends ces minutes-là, même si c'est 10 minutes entre les deux matchs, ou 6 minutes, et tu en donnes un peu plus de temps pour les matchs de titre, quoi. Les deux matchs qui... Enfin, la carte était déjà tellement gavée sans ces matchs Cruiserweight que... Ou alors t'étales, tu mets un match de titre dans cette émission-là, et l'autre la semaine prochaine pour, je sais pas, moi c'est vraiment le gros non-non de cette semaine, c'était un peu effectivement ce booking trop chargé.
Bref. Ils ont voulu essayer de nous vendre un espèce de mini takeover, mais c'était pas, ça allait pas. L'organisation de la carte, comme tu dis là, c'était un truc, ça allait pas, les matchs Cruiserweight, c'était pas possible. Pas
too dans, much.
Pas dans ce contexte. Too much. Pas dans ce contexte là.
C'est clair. Un qui est aussi grognon, c'est Finn Balor, hein, qui débarque,
qui
prend le micro et qui fait
OK.
Ouais, il sait qu'il y a des gros serpents dans les bureaux, mais a priori il y a aussi des gros serpents dans le vestiaire. Voilà. Après il connaît la chanson, il sait ce que c'est les bases du catch. La première règle, c'est d'attaquer Zigai. Le mec en vue pour avoir un push, avoir ce gros push, hein, avoir une musique, des lumières, de la fumée, des lasers, etc. Mais si tu as ce push-là, eh bien, tu vas te trouver dans le ring avec le prince. Donc c'est un mec patient, Finn Balor, il nous dit il est patient, mais qui que ce soit qui l'attaquait, eh bien ce push ne sera pas un push, ce sera un squash. Donc sa musique retentit et il s'en va. Suite à ça, on a un petit match aussi, il y a encore 2 minutes, entre Cameron Grimes et Denzel Dejournet. Cameron Grimes fera son Kevin très rapidement pour la victoire. Après le match, il prend le micro, il fait voilà, blablabla, j'ai entendu ce qu'a dit Finn Balor juste avant, je sais pas qui s'il a agressé Balor, mais si c'est moi qui l'avais agressé Balor, eh bien du coup, je lui aurais bien fermé sa bouche avec une bonne gifle dans la gueule. Et on voit Balor qui revient. Pendant que Grimes continue au micro à trash-talker Balor, Balor qui au fur et à mesure grimpe sur le ring, Grimes n'a pas compris, jusqu'à ce qu'il soit quasiment à 5 cm de sa gueule. Là, Grimes se rend compte et commence à flipper. Balor qui lui fait « Ah ouais, tu veux me fermer la gueule, tu veux me mettre une bave dans la gueule, bah vas-y, vas-y, mais là. » Grimes qui essaie de s'en sortir, hein, dire « Ouais, non, mais c'est bon, mec, c'est pas ce que je voulais dire, c'est pas moi qui t'ai attaqué, etc. » Donc, il y a Grimes, au bout d'un moment, qui essaie d'attaquer... de type shot Balor, mais Balor lui stompe dessus et lui fait une sling blade assez tonitruante. Grimes replie stratégiquement, et donc du coup, Balor qui repart à la caméra en disant « Voilà, je sais qu'il y a ce serpent qui se cache, mais je le trouverai, même si je dois brûler toute la savane pour trouver ce serpent, je le trouverai, et quand je le trouverai, eh bien, je lui couperai la tête, parce que c'est la meilleure façon de tuer un serpent. » Petite note, Finn Balor, couper la tête est généralement la meilleure façon pour tuer quoi que ce soit. Hein. Pas que les serpents, ça marche pour tout, crois-moi. Et on nous annonce la semaine prochaine, eh bien, Grimes contre Balor. Voilà pour ce segment et match et re-segment sur l'intrigue de qui a attaqué Finn Balor. Selon toi, mon chaton, qui l'a agressé ?
Ah là, qui a agressé Finn Balor ? En tout cas, là, en attendant, on a une rivalité vraiment là, de transition pour le coup. Voilà,
Ouais.
Avec Cameron Grimes pour que Finn Balor puisse patienter gentiment avec Walter, ce qu'il fait depuis déjà un long temps. Et après, bon, écoute, Cameron Grimes, il a du temps d'antenne, lui. Hein, il est pas mal utilisé hein, quand même hein, depuis le début, quoi.
Ouais, moi j'avais été étonné de ne pas le voir dans le tournoi Cruiserweight.
Ouais, d'ailleurs, il aurait pu avoir, mais il est peut-être un peu au-dessus du poids, lui, quand même.
Ouais, il a été longtemps X-Division Champion du côté de la TNA, donc un peu cruiserweight. Hein. Il a la taille, le poids, je pense, mais peut-être qu'ils estiment qu'il est au-dessus de la division, ce qui n'est pas trop mal, parce que ça aurait été dommage de le sortir de la X-Division d'Impact juste pour le remettre chez les cruiserweight. Donc moi, je suis pas gêné et gâché de le voir feuder avec des gens comme Balor, hein, je trouve ça cool. Surtout qu'au niveau des matchs, ça peut être la bataille du coup de grâce ou du double stomp, hein, puisque le Kevin, c'est un peu ça... scellé différemment, mais ouais. Mais du coup, ouais. Sur ton pronostic, qui a agressé Finn Balor ? Est-ce que tu as une petite idée ?
Ah bah c'est l'Imperium. Je vois pas qui c'est que ça peut être d'autre, quoi. Là, franchement, à part l'Imperium, ce sont les coupables, mais peut-être que je me trompe, hein, pour moi, à l'heure actuelle, c'est ça, quoi.
Eh ben écoute, on verra. Moi, je ne sais pas. Effectivement, pareil, hein, ça serait le truc le plus logique. Mais est-ce qu'il s'en cacherait Imperium ? Je ne suis pas sûr. Donc, mystère. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'en occupe. Peut-être que c'est Damien Priest. On va savoir.
Ah, Damien Priest. Mais Damien Priest,
quand même,
encore, hein, encore occupé avec Keith Lee. Donc,
ouais, mais il a perdu Clean contre Keith Lee. Peut-être que. Je verrai. En tout cas,
pas sûr que ça soit fini entre Keith Lee.
Ouais. Mais c'est plus que j'aimerais bien voir une petite rivalité et un bon match entre Balor et Demetrius.
Ah ouais, ça pourrait être pas mal. Ouais.
Ouais, le match serait assez alléchant, donc voilà, c'est ce qui me fait dire que ça pourrait être cool. Donc on verra bien, et il est temps de notre main event, le match pour le titre suprême de NXT, le titre d'Adam Cole qui l'a autour de la ceinture depuis quasiment un an maintenant, hein, 340 jours, hein, il a quelques semaines de fêter l'année contre The Velvet Dream. Donc voilà, un match, et là quand le match commence, je regarde le compteur de ma vidéo NXT et je vois qu'il reste moins de 10 minutes d'émission, et oui. Donc ce match durera de moins de 10 minutes titre en main event, et évidemment comme le match pour les femmes, il y aura un finish un peu qui sera pas clean du tout évidemment, puisque débarquera à un moment donné sur la fin lorsque le Dream semble prendre l'ascendant son adversaire, et bien les copains de Undisputed Era, Roderick Strong et Bobby Fish, qui courent vers le ring, mais avant qu'ils surgissent et qu'ils arrivent au ring, et bien surgit de sous le ring, glisse, rampe de sous le ring Dexter Lumis, Hein, ce Dexter Lumis à la présence inquiétante et au comportement un peu erratique, voire what the fuck, les dernières semaines, eh bien, se débarrasse de Nice Petit Dera afin qu'il n'y ait pas d'intervention dans le match. Dream mettra un Purple Rainmaker à Adam Cole, mais fera quand même un tour du côté de l'extérieur, hein, en faisant effectivement un saut pour aider Lumis qui avait maille à partir contre Song et Fish. Cela fournira le créneau, juste ce qu'il faut à Adam Cole pour pouvoir placer eh bien, un lash-shot sur l'arrière du crâne du Dream pour la victoire. Sachant que l'arbitre, bien sûr, il y a eu un rev bump aussi. Donc là, c'était un match finish overbooking à mort. Le rev bump, l'intervention, etc. Lumis qui sort de sous le ring. Adam Cole garde le titre, ce qui était, à mon sens, ce qu'elle arrivait, parce que je ne voyais pas Adam Cole perdre le titre contre Dream maintenant.
C'était taillé sur mesure pour Adam Cole, ce match.
Ouais. Donc, voilà. Un match de 9 minutes. Hein.
Ça ne pouvait que atterrir à la victoire d'Adam Cole. De toute façon, un match avec autant d'overbooking, avec aussi. Mm-hmm. Voilà, encore une grosse déception. Hein. Voilà, on nous a vendu. Moi, putain, la semaine dernière, j'étais hypé pour ce weekly. Hein, et au final, pour moi, les matchs de championnat, ils n'ont pas tenu leurs promesses. Et voilà, ils ont fini en eau de boudin, plein d'overbooking. Les champions conservés, parce que de toute façon, ils ne pouvaient en être autrement. Donc moi, ce main event, il m'a laissé mais complètement sur ma faim, quoi. Et bien évidemment, l'arrivée. Alors effectivement, les interactions, tout ça, avec un petit Tidera, etc. C'était sympa. La baston là, avec le Dexter Lumis, qui voilà, j'aurais aimé le voir même un peu plus lui dans l'épisode d'ailleurs. Et presque dommage que. Mais j'ai bien aimé son apparition de sous le ring là.
Oui.
Alors par contre, c'est bizarre parce que du coup, c'est la deuxième fois qu'il intervient en faveur du Dream.
Oui,
alors qu'il a plutôt un alignement de heel, et pourtant ça fait deux fois qu'il vient filer un coup de main au face. Donc bizarre
position Dexter. Il a un alignement effectivement qui est étrange, hein, qui est clairement il nous est vendu comme étant un personnage assez perturbé mentalement, donc il n'a pas un alignement qui est clair, face ou heel. Effectivement, ça fait deux fois qu'il donne un coup de main à Dream, et à chaque fois c'est contre The Undisputed Era. Donc du coup, je pense que c'est pour construire un peu une alliance d'autres catcheurs afin de s'opposer au trio ou quatuor Undisputed Era. Donc voilà, je pense que Lumis, il a un petit côté twinner, c'est pas clair en tout cas ce qu'il veut. Voilà, et effectivement, le fait que l'Undisputed Era intervienne à la fin du match, c'est normal, c'est une faction, c'est une faction heel, ils sont là pour ça, quoi, hein. C'est évident qu'il y aura jamais un truc ultra clean. À partir du moment où Adam Cole est en danger, forcément, ses poteaux vont arriver pour renverser la vapeur. Mais encore une fois, j'aurais aimé voir un peu plus de temps dans ce match, un peu plus de beaux catch. Là, c'était un peu léger, je trouvais, ce qu'on nous a montré avant que ça parte clairement en overbooking. Donc, bon. Voilà ce qui sonne la fin des émissions de cette baston du mercredi. Donc, mon cher tonton Chris, cette semaine, d'après toi, qui a remporté la bagarre ?
Eh bien, cette baston, je vais la donner à la IW. Je vais donner mon point à la IW. Parce que voilà, dans cet épisode d'NXT qu'on vient de discuter, à part finalement l'arrivée de Karrion Kross, pour moi, ça a été assez compliqué. Les matchs sans intérêt du côté du tournoi Cruiserweight. Un opener, pour moi, pas terrible entre Gargano et Dijakovic. Des matchs de championnat expédiés, bref, waouh, difficile à NXT, là, alors que j'avais des attentes élevées, et alors que de l'autre côté, on nous a servi du street fight, du what the fuck, du serpent, du match de 15 minutes avec le champion du monde, voilà quoi, avec la championne du monde féminine présente également, voilà, le Cody, bref, c'était vachement plus dense. À mon goût, en tout cas, c'était vachement plus dense du côté de la All Elite Wrestling et avec des belles séquences de catch. Quand Lance Archer est là, Tonton Chris est toujours content. Et donc, du coup, ouais, pour moi, là, dans la balance, je suis largement avec les ratings et donc je suis du côté de la All Elite Wrestling.
Eh bien, sans surprise, sans suspense, je suis d'accord avec toi. Encore une fois, on nous avait vendu la semaine dernière une carte quasi takeoveresque pour NXT.
Et ouais.
Alors que finalement, ben, le takeover, en termes de construction de la carte, était plutôt du côté de All Elite, puisque All Elite, ils avaient 6 matchs non pas 5 matchs cette semaine, avec 3 matchs qui étaient à plus de 13 minutes chacun, hein, 13 ouais, minutes, 16 ouais. minutes, 19 minutes.
Du catch, bordel.
Voilà, on n'est pas sur des matchs de qualité de takeover, hein, je ne suis pas en train de dire ça, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais voilà.
Je ne dis pas ça non plus.
On aurait aimé, en tout cas j'aurais aimé que vraiment ils traitent les matchs de championnat, même si on est sous des wonky finish, des finish avec des interventions, etc., avec un peu plus de temps, peut-être qu'ils auraient dû diluer la construction de la carte sur 2 semaines plutôt que sur 1 semaine, donner plus de temps pour les matchs cruiserweight
ouais. championnat.
Est-ce qu'ils ne payaient pas là cette semaine NXT la course à l'audimat de vouloir effectivement rameuter plus d'audience avec des cartes très alléchantes, et en plus on voit que ça n'a pas forcément marché, ils ont eu 4,6% par rapport à la semaine dernière, mais All Elite a eu tout autant voire un peu plus, donc du coup c'est pas ça, c'est pas la bonne méthode, hein, Triple H et Shawn Michaels, c'est pas monter des cartes ultra chargées qui va faire que les gens vont plus regarder le produit, donc essayez de faire des matchs plus longs, s'il vous plaît, nous c'est ce qu'on demande. Pour savoir,
on est suiveurs d'NXT, donc on est fans, et avoir un tel programme annoncé la semaine d'avant comme ça, où tu arrives sur le truc en étant confiant quand même, en disant ouais là ça va être du lourd et tout, se retrouver avec ce truc qui fait pchit comme ça, c'est vachement décevant.
Donc,
NXT nous a habitués à largement mieux. Alors il y a toujours ce maudit confinement, hein, de toute façon, mais voilà, la AEW, ils y mettent de la vie dans leur show. Et ça aussi, hein, ça change tellement la vision du show en lui-même, quoi, que c'est NXT, hein, ils ont du mal, hein, depuis le début du confinement par rapport à ça quand même.
Eh oui. Donc, est-ce que Shawn Michaels et Triple H, qui on sait, hein, écoutent Catch Up, est-ce qu'ils vont écouter notre appel, se faire des matchs plus longs? Eh bien, pour ça, pour le savoir, il va falloir faire comme eux. Soyez comme Triple H et Shawn Michaels. Abonnez-vous à Catch Up, c'est simple. Si tu écoutes et regardes cet épisode de la Baston de mercredi sur YouTube, mets un petit like, mets un commentaire et abonne-toi avec la petite cloche pour savoir quand sortent les prochaines reviews, que ce soit de SmackDown, d'Euro, des pay-per-view, de la Baston du mercredi. Sinon, on est aussi présent sur le monde du podcast audio, Deezer, Spotify, Google Podcast, Podcloud, Ocha, Apple Podcast, tout ça, on est dessus. Et on est bien sûr sur Discord, on a un gros Discord. Où il y a plein de gens, plein de poteaux de catch-up, le peuple de catch-up, comme dit Chris, pour parler de la passion du catch. Donc, nous, on vous donne rendez-vous pour la review de SmackDown qui arrivera en même temps qu'elle-même, mais prochainement. Dans tous les cas, l'amigo Chris, muchas gracias pour cette baston toujours sympa à commenter avec toi.
Merci à toi, l'amiral. C'est toujours un plaisir de reviewer cette fameuse grosse baston du mercredi. Et si t'es pas content, non? Eh ben, dis-le dans les commentaires qu'on se bastonne avec toi.
Ouais. Et nous aussi, on va tricher avec des kendo sticks. On va arriver avec toute la faction de catch-up pour intervenir. On fera des rêves bump, tout ça. Enfin,
we want table! We want table!
Eh bien, écoutez, bientôt, c'est la première phase du déconfinement. Donc, on vous souhaite un début de déconfinement plein de catch. Et on vous dit à très bientôt. Salut!
Scarlett. Ah, c'est on n'est pas dans autant on emporte le vent là.
Ah non. Ça non.